La facture explose pour plusieurs chantiers d'hôpitaux du Québec. Déjà plus de 1,2 milliard en dépassement de coûts. Il y a bien des questions à se poser. En plein fiasco, ça clique. En plus, on n'est pas dans le même genre d'explosion de coûts, mais quand même, il y a des questions à se poser, comme je le mentionnais. Et pour répondre certainement à certaines de ces questions-là, on rejoint Pierre-André Hudon. Il est professeur agrégé au département de management de l'Université Laval. Il est cité ce matin dans l'article du Journal de Québec. Monsieur Hudon, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va très bien, merci.
Comment on évalue ça au Québec, des factures pour des gigantesques chantiers comme des hôpitaux? J'imagine qu'il y a une façon de faire qui est assez uniforme. C'est quoi cette façon de faire-là?
Ben, quand on parle de dépassement de coûts, puis quand vous parlez même d'évaluation de factures, il faut toujours bien définir de quoi on parle. On ne peut pas parler de dépassement de coûts si on n'a pas deux informations. L'estimé et le coût réel. Mm-hmm. Évidemment, un dépassement de coût, normalement, comme on le comprend, là, c'est un dépassement entre l'estimation et le coût réel. Là, on peut se poser la question, il est où le problème? Est-ce que c'est dans l'estimation? Est-ce que notre estimation, elle est trop vieille et elle correspond à des prix de marché trop bas? Est-ce que le projet que l'on a évalué, c'est plus vraiment le projet qui a été construit parce qu'il y a eu des demandes, des changements, etc.? Ou si l'estimation, au contraire, elle était bonne et elle est relativement actuelle, et les coûts de projet ont explosé parce qu'on a payé trop cher pour toutes sortes de raisons. Il y a souvent une tendance à penser que quand on parle d'explosion de coûts, on dit on s'est fait avoir, mais il y a peut-être un peu... La réalité est souvent un petit peu plus subtile que ça. Okay. Mais là où je veux en venir, c'est que si c'est les estimations qui sont déficientes, c'est un problème. Si c'est la gestion des contrats, des coûts réels qui est trop élevé, c'est un autre problème distinct. Fait qu'on peut pas le savoir tant qu'on n'a pas vu le détail comptable et des estimations et des coûts réels.
Pourquoi on dirait que c'est comme rendu une norme au Québec de ne pas respecter les estimations de coûts? Puis même, je parlais en introduction de la commission Galland présentement, du fiasco Saclic, puis je me souviens, on avait fait jouer un extrait de Geneviève Guilbeault qui a quasiment l'air de dire à quel point, oui, mais c'est normal d'avoir des explosions de coûts. On en a dans tel dossier, puis tel dossier, puis tel dossier. Pourquoi c'est comme rendu une norme de ne pas être capable de respecter les chiffres qu'on a mis sur la table?
Bien, un des problèmes, c'est probablement les estimations de départ qui sont trop basses, pour toutes sortes de raisons. C'est bien documenté, puis là, je parle pas du Québec, mais c'est bien documenté dans la littérature scientifique que souvent, on va sous-estimer les coûts volontairement pour faire accepter les projets. Parce que dans la dynamique politique, rajouté à ça la pression médiatique, la pression des campagnes électorales, on aime mieux annoncer un coût un peu plus bas, quitte à dire, on s'excuse, on a dépassé nos coûts, surtout qu'on est dans une ambiance où on sait qu'il va y avoir des dépassements de coûts de toute façon, pour faire accepter le projet puis l'embarquer. Parce que si on avait donné la bonne estimation dès le départ, en sachant très bien combien ça allait coûter, le projet se réaliserait pas, serait jamais accepté. Puis je vous renvoie au troisième lien. Là, je pense que on sait très bien les coûts réels que ça finirait par coûter sont probablement beaucoup plus élevés que ce qui a été mentionné dans les médias, mais cette dynamique-là existe dans à peu près tous les grands projets, les grands projets publics.
Et est-ce que le domaine hospitalier, parce que c'est ce dont parle l'article là, en particulier de ce matin du journal, est-ce que le domaine hospitalier est plus difficile un peu quand on vient le temps d'estimer des coûts? T'sais, on pouvait lire que c'est un domaine qui évolue excessivement rapidement. Fait que là, je donne un exemple fictif, mais mettons qu'on évalue des coûts en 2015, le temps que le projet se mette en marche, qu'on avance, mettons qu'on est rendu en 2022-2023, ben là, c'est parce que telle affaire qu'on prévoyait mettre, ça va plus pantoute, c'est déjà de la technologie du passé, ça vient-tu compliquer les choses un peu?
Il y a la question de la technologie, il y a la question, puis là, les dates que vous avez choisies, je sais pas si c'est un hasard, mais en 2015 puis 2022, vous savez très bien qu'il y a eu une pandémie qui a fait exploser les coûts de construction à cause d'une pénurie de main-d'œuvre, à cause de toutes sortes de facteurs, là, on n'a peut-être pas le temps d'en discuter, mais il reste qu'on sait très bien que les coûts de construction ont explosé. Puis après, il y a la question de la complexité. Un hôpital en particulier, il y a des technologies de pointe, hein, on le comprend bien, qui souvent ne sont même pas encore existantes là, au moment où on fait les estimés. Mm-hmm. Ce qui fait que généralement, on va spécifier, ben, on veut les appareils qui seront les plus performants au moment de la construction, peut-être 10, 7, 8, 10 ans plus tard. Donc, on se prend beaucoup de marge de manœuvre. Rajouter à ça une autre couche de complexité en plus, qui est celle de la coordination entre les ingénieurs, les différents corps de métier. Vous savez, dans un hôpital, il y a une variété très importante de corps de métier qui ont toutes des compétences très variées, qui ont des demandes très précises en termes d'équipement. Pensez aux médecins, aux techniciens, aux gens qui s'occupent de la radiologie, aux chercheurs. C'est plein de gens qui ont des besoins assez complexes. Avec la coordination de tout ça et la traduction, si vous me passez l'expression, de cette coordination-là en exigence technique dans les plans, devient extrêmement complexe. Et plus c'est complexe, plus il y a de chances qu'il y ait des erreurs.
Est-ce qu'on peut faire des liens entre le papier de ce matin sur les explosions de coûts sur des chantiers d'hôpitaux et l'explosion des coûts pour Saclic? Là, on s'entend, on est dans deux domaines très, très différents. Un, on est vraiment dans le très physique, là, je veux dire un hôpital qu'on construit ou qu'on rénove. Puis après ça, il y a la transformation numérique. Mais reste qu'en bout de ligne, quand on parle d'explosion de coûts présentement, on pense à Saclic. On n'a pas le choix d'essayer de faire des liens dans nos têtes. Est-ce que ces liens-là sont valides?
Ben, du point de vue théorique, on peut se dire que oui, les liens sont valides dans le sens que c'est soit un problème d'estimation, soit un problème de gestion du contrat, d'achat des matériels puis des heures de travail à un prix trop élevé par rapport aux estimations. Évidemment, tant qu'on s'est pas mis le nez dans la comptabilité et des estimés et des coûts réels de chacun des projets, on n'aura pas un portrait exact. T'sais, je veux pas avancer de dire que ici dans sa clique, le problème c'est celui-là, puis c'est exactement la même chose dans le cas du nouveau centre hospitalier, parce qu'on le sait pas là. J'ai pas vu les chiffres. Cela étant dit, je vous rappelle que dans un projet là, tous les coûts se limitent essentiellement à quatre éléments: des nombres d'heures travaillées, des taux horaires des gens qui travaillent, des matériaux de construction, puis des coûts des matériaux de construction, des quantités de matériaux puis des coûts. Le problème, il réside dans un de ces quatre éléments-là. Soit qu'on paie trop cher pour les matériaux, soit qu'on paie trop cher les gens, soit qu'on passe trop d'heures à travailler, soit qu'on achète trop de matériaux. Mais là, comment, dans le processus décisionnel, l'erreur s'est glissée? Ben là, il faut une analyse un peu plus raffinée.
Je vous rappelle qu'on parle avec Pierre-André Hudon. Il est professeur agrégé au département de management de l'Université Laval, cité ce matin dans le Journal de Québec dans le papier. La facture explose pour plusieurs chantiers d'hôpitaux du Québec, déjà plus de 1,2 milliard en dépassement de coûts. Aussi cité dans l'article, un certain Nicolas Jobidon, qui est professeur agrégé à l'INAP et spécialiste des marchés publics. Et lui, ce qu'il mentionne, puis ça, c'est un point qui est venu accrocher, j'ai l'impression, ben du monde, il n'y a pas d'école des marchés publics. 100% des approvisionneurs publics sont entrés au bas de l'échelle puis ils ont comme appris sur le tas. Est-ce que c'est quelque chose qui est normal pour un rôle qui est aussi important en bout de ligne puis qui coûte du vrai cash aux contribuables?
Normal, je ne sais pas, mais mon collègue Nicolas Jobidon a certainement raison qu'il y a peu de formation universitaire. Nous, on vient d'en fonder une, si vous voulez. Là, on vient d'en mettre une sur pied conjointement à l'Université Laval puis à l'ENAP, un DESS en gestion des marchés publics. Évidemment, ça vient de commencer là, cette année en 2025, donc on n'a même pas nos premiers étudiants, mais il reste que, oui, le travail de gestion des contrats, qui est assez fondamental pour l'État, parce que l'État fait faire beaucoup de choses. Les contrats publics, c'est, mine de rien, 15 à 20% des dépenses du PIB des États. Hein? Donc, c'est des énormes montants. Tout ça passe par des contrats. Je pense qu'on aurait beaucoup à gagner à mieux se munir. C'est déjà très encadré par la loi, mais je pense que l'État devrait développer des capacités à mieux gérer son contrat qui vont au-delà de seulement suivre la loi. Surtout que, ça, je me permets un petit aparté, là, on a tendance à avoir une culture très, très conservatrice là, dans la gestion des marchés publics, c'est-à-dire qu'on passe au mode du plus bas soumissionnaire. On a souvent tendance à dire « Ah, mais ça, c'est obligatoire ». En fait, la loi au Québec est beaucoup plus permissive que ce que l'on voit en pratique. La loi nous donne le choix de ne pas prendre le plus bas soumissionnaire si on a des critères, par exemple, de qualité qui sont plus élevés. On peut dire octroyer un contrat au 2e, 3e plus bas si on est capable de démontrer que c'est un meilleur deal, si vous me passez l'expression, un rapport qualité-prix plus élevé. Évidemment, il faut le spécifier en amont dans les documents d'appel d'offres, mais la culture du plus bas soumissionnaire, là, c'est justement rien de plus qu'une culture. Okay. Dans le sens qu'on a des alternatives.
Puis est-ce que c'est juste, on parle de culture, c'est-tu vraiment juste ça, une culture qu'on fait, bon ben ça a toujours été de même, ça va rester de même, puis on avance comme ça?
Je pense pas que ça va toujours rester de même. Je pense qu'on peut, les cultures, ça change, hein? À travers le temps, les cultures évoluent. Il y a certainement des bonnes pratiques qui doivent évoluer. Je pense que de se mettre dans un état d'esprit où on évalue la qualité des propositions plutôt que de prendre la plus basse, c'est certainement quelque chose vers le quoi on devrait tendre. Cela étant dit, ça demande des capacités d'analyse importantes de l'État.
Justement, en ce moment, on voit que ça, c'est peut-être problématique quand on apprend sur le tas, puis fait qu'à la base, le problème part peut-être un peu de là aussi?
Bien, c'est certainement une partie de la réponse. Donc, développer des capacités d'analyse, de donner des ressources aux fonctionnaires pour être capables de bien connaître chacun des domaines. Vous savez, il y a des gens là, qui font des appels d'offres à temps plein qui doivent être spécialistes de microscopes dans les hôpitaux, puis le lendemain, acheter des chaises pour les prisons au Québec. Ouais. On peut pas être expert de microscopes et de chaises et de grands projets de construction en même temps. Donc, tu sais, d'avoir les ressources pour être capable de bien connaître son marché, d'être des magasineurs, permettez-moi l'expression, à temps plein, qui connaissent bien les produits, qui connaissent bien les niveaux de prix, qui savent ben où est-ce qu'on peut faire des compromis sur telles options, sur certains produits, par exemple, ça serait une bonne idée. Cela étant dit, ça prend du monde, ça prend des capacités, ça prend des ressources, ça prend des gens bien payés pour le faire.
Pierre-André Hudon, professeur agrégé au département de management de l'Université Laval. Merci beaucoup pour votre temps.
Merci beaucoup.
Bonne journée. Donc, je pense qu'on a des éléments de réponse par rapport à certaines questions qu'on avait. Je vous rappelle qu'on discutait là d'explosion de coûts pour des chantiers d'hôpitaux au Québec. Déjà plus de 1,2 milliard. Ça, c'est juste en dépassement de coûts. C'est le Journal de Québec qui nous a sorti ce papier-là ce matin. On est comme dans un timing où dépassement de coûts, on en parle pas mal avec la commission Galland. Je vous rappelle que François Legault est en train de témoigner par rapport à ce qu'il savait, ce qu'il savait pas, ce qu'il a su quand, par rapport au fiasco Saclic puis l'explosion des coûts. On parle déjà d'explosion de coûts dans la transformation numérique du système de santé. Fait clairement, dépassement de coûts, c'est quelque chose qu'on n'a pas fini d'entendre. Au retour, Mathieu Briand, qui est organisateur de la grande manifestation nationale pour des élections qui s'est tenue hier devant l'Assemblée nationale du Québec. On demande le déclenchement d'élections. Drette là!